dans la foi, vraiment, c'est la louange. Parce que nous trouvions que nous devions avoir assez d'espérance pour pouvoir dire, bien, nous terminerons l'année dans la louange, quelles que soient les circonstances que nous traverserons. Et quand nous avons été amenés à prendre ces trois thèmes, qui, vous vous le rappelez peut-être, vous ont été annoncés en novembre de l'année dernière. Le premier, c'était le repas du Seigneur. Le second, qui a eu lieu donc le mois dernier, en novembre, c'était l'adoration. Qu'est-ce que c'est qu'adorer, la vraie adoration. Et enfin, nous pensions que nous pourrions terminer l'année par la louange. Je répète, quelles que soient les circonstances que nous devrions traverser. Et les épreuves dans cette année n'ont pas manqué. Et peu s'en est fallu que ma chère femme ne puisse pas participer à ses retraites, puisque le 25 juin, elle était brutalement renversée par un automobiliste, comme certains le savent, alors qu'elle sortait de l'hôpital où elle était allée soigner ses malades. L'automobiliste l'a renversée et ne s'est pas même arrêtée. Les policiers ont dit délit de fuite. Ils ont prétendu que c'était ma femme qui s'était jetée sur l'auto. Les rapports de police. Pourtant, on les aime bien, ces policiers. Mais, quelquefois, ils s'arrangent à régler rapidement les choses. Mais enfin, par la grâce de Dieu, comme vous le voyez, après cette fracture ouverte, où j'ai trouvé ma femme dans une flaque de sang sur la rue, quand la police m'a appelé, eh bien, c'était pas très drôle. Et le 29 du mois de juillet, je devais partir pour 2 mois de mission en Europe, en Italie, en France et en Suisse. Alors, qu'allais-je faire? Bien, le Seigneur a envoyé ses anges et dès que ma femme a pu parler parce qu'elle avait eu quelques complications, eh bien, elle m'a dit ceci, ce n'est pas mon accident qui doit empêcher ton ministère. Elle m'a laissé partir. Et j'ai pu partir malgré tout dans la paix et rester dans la paix pour apporter quel sujet qui avait été aussi annoncé à l'avance. Et c'est pour vous montrer combien Dieu est conséquent. Et quand on lui dit quelque chose ou quand nous nous exprimons, bien, il se souvient de ce qu'on a dit. J'avais donné comme thème pour la 45e année des camps de Florence, il fait tout à merveille. Des mois à l'avance, il fait tout à merveille. En citant, parce que je m'appuie toujours sur la Bible, Marc 7, 37. Mais c'était pas du tout merveilleux de voir ma femme dans cet état. Et il semblait que tout était contraire. Et c'était annoncé dans les journaux en Italie, il y avait 150 inscriptions au camp de Florence, depuis la Sicile, depuis la Calabre, jusque dans le nord de l'Italie, tout se rassemblait là, à Florence. Et si je n'avais pas pu m'y rendre, bien pour beaucoup c'était une grande déception, non pas parce que je suis un être indispensable, pas du tout, mais ils s'attendaient à cela et tous les sujets que je devais traiter, on avait 18, c'était tout avec le mot merveilleux. Et on avait le mot merveilleux dans la Bible. Et chaque sujet était un sujet qui devait parler d'une merveille de Dieu. Puis voilà que rien n'était merveilleux pour moi. Et ça a donné beaucoup plus de force à ces messages qui ainsi n'étaient pas des théories, mais étaient vécues. Et par la grâce de Dieu, il y a ici une des sœurs qui a été un des anges pour ma femme pendant les premiers 10 jours de mon absence, Elisabeth, qui vient d'arriver avec son mari. Alors nous sommes heureux de nous retrouver et puis de d'être avec ma femme qui m'a été conservée alors que, comme vous le savez, dans un accident et des suites d'un accident, on peut être aussi repris. Oh, c'est pas une catastrophe d'être repris et d'aller vers le Seigneur, je le sais, hein. Mais quand même, pour celui qui reste, il y a de la solitude et je suis infiniment reconnaissant. Alors je finis l'année dans la reconnaissance et dans l'action de grâce. Et j'espère que nous serons tous en communion ensemble. Voilà. Je vous remercie de votre patience. Et comme beaucoup le savent, notre souhait de bienvenue dans chacune de ces retraites, dans cette maison qui pour moi est tout à fait providentielle, que nous puissions la voir, que nous puissions jouir d'une telle demeure, être reçus par les sœurs de la charité, les sœurs grises qui font tout ce qu'elles peuvent pour que nous soyons heureux et que je puisse exercer ce ministère parmi vous. Oui, c'est une maison providentielle. Je la connais depuis 1970 et c'est en 72 que j'ai vraiment eu la vision si je pouvais avoir cette maison et avoir 3 retraites au moins par année où chacun puisse venir, quel que soit son milieu, quel que soit le pays de sa naissance spirituelle, ce serait vraiment merveilleux. Un jour, ça s'est réalisé. Et nous sommes dans une atmosphère de prière et je crois que nous avons tout un témoignage à rendre aussi à ces sœurs qui se dévouent pour laisser cette maison ouverte. Et vous avez vu que chacun de vous, il y a sa chambre, son lavabo, et puis il y a des commodités dans les couloirs, de sorte que nous ne trouvons pas cela n'importe où. J'ai visité bien des maisons au Québec. Et c'est celle-ci que j'ai retenue parce que le Seigneur m'avait parlé un jour, tu pourras avoir cette maison. Et quand Dieu nous fait une promesse, il la tient et les prix sont abordables. Vous n'avez pas à apporter un sac de couchage, vous n'avez pas à apporter de linge, moi je n'ai pas à m'occuper de l'intendance, de la cuisine et de tout cela, de sorte que, oui, nous pouvons commencer par une action de grâce. Et c'est quand même pas si loin de Montréal, c'est proche, puis quand même, on est dans un coin à l'abri. Et l'automne, c'est tout à fait merveilleux parce qu'il y a tous les pommiers là autour. Et s'il faisait quelques rayons de soleil demain, vous pouvez faire un petit tour. Il y a même un cimetière là. Alors, moi évidemment, je suis un habitué des cimetières parce que j'y réfléchis toujours quand j'y vais. Parce que nous savons bien que si le Seigneur ne revient pas, tôt ou tard, nous devrons passer par la mort. Mais nous le disons parce que Jésus y a passé avant nous et il nous a laissé des paroles merveilleuses au sujet même de ce difficile passage. C'est le psaume 23e. Hein. Même si je devais passer par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi. Et je l'ai dit souvent, c'est peut-être le premier psaume que les parents chrétiens apprennent à leur enfant, et c'est aussi le dernier psaume qu'on entend sur les lèvres d'un mourant. C'est extraordinaire d'entendre encore un mourant qui récite au dernier moment ce psaume, sachant où il va. Vous savez que j'aime introduire ces rencontres par une parole de bienvenue. Et je vous souhaite à tous, du fond du cœur, la plus cordiale bienvenue. Et voyez-vous, j'ai plié moi-même, je les ai tapés, je les ai pliés, Et puis je vous ai agrafé, et je peux vous dire qu'ils ont tous été dans ma main, un à un. Et j'ai prié pour que chacun puisse éprouver une bénédiction. Ainsi, vous avez déjà été dans mon cœur, j'avais la liste grâce à Madame Badet, j'avais la liste de vos noms, et en faisant ce travail, qui est un travail tout à fait manuel, je pouvais garder mon esprit entièrement libre pour prier pour chacun de ceux et de celles qui recevraient ce message que vous avez sous les yeux et qui vous donne tout de suite le programme sur ce thème, la louange. Donc, plusieurs ont pu s'installer dans leur chambre. À un certain moment, notre ami Josaphat vous donnera encore d'autres détails dont vous avez peut-être besoin matériellement. À 20h30, c'était le rassemblement dans la salle. Nous avons le quart d'heure, comme on dit en Suisse, vaudois de retard. Hein. Les Suisses sont toujours en retard. Hein. Mais peut-être qu'ils savent pourquoi. Ils ne sont pas entrés encore dans le marché commun, parce que peut-être qu'ils trouvent que c'est un peu précipité. Ça viendra, certes, mais entrer dans une communauté où l'on chicane. Jusqu'à présent, la Suisse a voulu être en dehors de tout. Elle ne pourra pas rester en dehors de tout, n'est-ce pas? Mais, pour l'instant, peut-être qu'ils trouvent que c'est mieux d'attendre encore. Alors, nous avons pas les mêmes motifs, nous, pour notre retard, mais enfin, je pense que nous avons à cœur que nos amis qui sont encore en route puissent arriver au milieu de nous. Et il y a certaines personnes qui n'arriveront que demain matin, nous le savons. Alors, mon souhait de bienvenue, pour y revenir, vous l'avez sur ce papier, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu. Et quelqu'un m'a fait remarquer que j'avais mis la communication. Et c'est vrai, on peut traduire les deux choses, la communion, mais justement, j'avais cette Bible-là, qui est la Bible Vida, que vous connaissez aussi, et on peut traduire aussi la communication du Saint-Esprit, et je me suis trouvé mettre la communication, alors que dans mon cœur, je voulais mettre la communion, hein, parce que je suis habitué à la communion du Saint-Esprit, mais c'est la même chose. Hein. La communion, la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est accepté dans ce souhait? Et c'est pas le souhait de Racine, hein. C'est le souhait que Saint Paul fait aux Corinthiens, dans sa deuxième épître, au chapitre 13 et au verset 13. Et ceux qui, depuis des années, sont habitués à nos retraites, savent que mon souhait est toujours un souhait biblique. Pour quelle raison? Parce que moi, je suis un homme qui parle, mes paroles sont des paroles humaines, tandis que quand je cite l'Écriture, je sais que c'est la parole de Dieu. Et que si le ciel et la terre passeront, ces paroles ne passeront point. Donc, je suis assuré que ce souhait, étant un souhait biblique, peut devenir réalité vivante en chacune de nos vies, de vos vies. Hein. Car vous êtes tous concernés par ce souhait. Et qu'avons-nous besoin dans ces journées, sinon de la grâce du Seigneur Jésus-Christ? Et je veux croire que vous êtes de ceux qui connaissez quelque chose de la grâce du Seigneur Jésus-Christ, et que vous pourriez vous lever et nous parler de ce qu'a été la grâce pour vous-même, et depuis quel temps vous avez éprouvé que vous étiez l'objet de la grâce de Dieu. Mais ne pensez pas que c'est depuis le jour de votre conversion. Hein. Bien avant votre conversion, il s'occupait de vous. Quand vous étiez encore
dans le sein de votre mère, Dieu vous voyait, quand vous n'étiez qu'une substance informe, nous dit le psaume 139, n'est-ce pas? Et tous vos jours étaient écrits alors qu'il n'y en avait encore aucun. La grâce de Dieu, évidemment, est devenue évidente à vos yeux, quel jour? Le jour de votre conversion, peut-être. Mais depuis votre conversion, est-ce que vous êtes conscient qu'ayant été sauvé par grâce, vous avez toujours besoin de la grâce de Dieu? Et que c'est chaque jour que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et que nous vivons de la grâce de Dieu. De sorte que ce souhait de Paul m'a été, pour ainsi dire, imposé. Habituellement, on cite ce verset à la fin d'une mission, à la fin d'une série, ou à la fin d'une réunion, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, parce que vous allez partir, l'amour de Dieu, que nous connaissons comme un Père saint, comme un Père juste, comme un Père de miséricorde, comme un Père glorieux, comme un Père, le Père des Lumières, de qui nous recevons tout don parfait. Le Dieu est Père de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Dieu est Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, que cet amour-là, ajouté à la grâce, soit avec vous tous. N'est-ce pas merveilleux de vous savoir, dès le début de cette retraite, des bien-aimés du Seigneur, des bien-aimés du Père du Seigneur. C'est pas n'importe qui, hein. C'est des bien-aimés du Père du Seigneur. Vous êtes les bien-aimés du Père du Seigneur. Et comment appelait-il son fils unique, ce Père? Mon fils bien-aimé. Eh bien, ça veut dire que Dieu vous aime maintenant comme il a aimé son bien-aimé. Vous êtes des bien-aimés. Alors prenez cela dans la foi. Au début de cette retraite, je ne sais pas dans quel état vous êtes venu ici, je ne sais pas quelles sont vos circonstances personnelles, mais ce que je sais, c'est que Dieu vous aime et que vous êtes aimé du Père de Jésus-Christ, c'est pas n'importe qui, et que vous êtes aimé de l'amour du Père comme il aimait son Fils. Moi, je dis souvent, mais ça me dépasse, et ça m'amène à l'adoration, parce que quand on est dépassé, on adore, on n'explique plus, on adore vraiment, c'est fantastique que je puisse être aimé de Dieu comme Jésus l'était, que Jésus ait été aimé de son Père, d'accord, il était parfait, il venait du ciel, mais que moi, un pauvre pécheur misérable, avec toutes mes faiblesses et mes manquements, que Dieu me dise qu'il m'aime, c'est formidable. Et voyez-vous, ce matin, je pensais, vous savez, il nous arrive des choses extraordinaires. J'étais dans le métro, je revenais d'un lieu où j'avais dû passer quelques moments, et dans le métro, je me disais, au fond, comme évangélisation, qu'est-ce qu'on pourrait réellement faire? Si, dans notre témoignage, on était ce qu'on doit être, peut-être des gens qui ne croient pas rendraient eux-mêmes témoignage en disant, ben vous savez, moi je ne croyais pas en Dieu, hein, mais je connais quand même quelqu'un qui m'amène à croire en Dieu. Hein? Et je me disais, je revenais chez le coiffeur pour ne rien vous cacher. Et ce coiffeur, il était complètement incrédule quand j'ai commencé. Et la dernière fois, parce que je lui dis qu'il est mon collaborateur, parce que il arrange ma tête pour que je puisse être à peu près convenable quand je vous vois, alors il me disait, vous savez, maintenant j'y crois. Je crois que Dieu existe. Puis il m'a raconté quelque chose qui m'a vraiment touché. Mais vous savez, ça a été long, c'est long, c'est long. Mais je me disais, au fond, quand Moïse a été appelé dans le désert, Moïse, comment est-ce que Dieu s'est présenté? Je suis le Dieu de ton père. Moi, je trouve ça, c'est fantastique, hein. Il se présente à Moïse qui, pensais être un homme fini. Je suis le Dieu de ton père. Et comment s'appelait le père de Moïse? Aram. Je suis le Dieu de ton père. Il s'appelait Aram. Et le Dieu d'Abraham. C'était les ancêtres. Hein? Le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais Aram, ce fils de Lévi, fidèle à l'écriture ou encore à ce que l'on connaissait de la pensée de Dieu, il avait épousé une fille de Lévi qui avait la crainte de Dieu. C'était un homme qui croyait en Dieu et qui épousait une femme qui avait la crainte de Dieu. Alors ils ont eu un fils dans des conditions tragiques où on devait faire mourir tous les petits-enfants. Eh bien, ils ont eu cette foi. Et qu'est-ce qui les a inspirés? Vous le savez, hein? C'est une inspiration biblique qu'ils ont eue pour faire le petit coffret où ils ont mis Moïse. C'est l'inspiration d'où? De l'arche de Noé. Et ils ont employé, pour enduire le petit coffret, ils ont employé le bitume comme l'arche de Noé, et ils ont confié, alors là, il n'y avait qu'un enfant, il n'y avait pas tous les animaux de la terre, hein, mais un enfant dans ce petit coffret. Mais ils avaient un exemple. Dieu avait sauvé Noé, et puis eux, ils s'inspirent de cet exemple, et Moïse sera sauvé des eaux. Vous savez pas que c'est merveilleux, la Bible? Et on est toujours nourri par la Bible. Alors, je me disais là dans le métro, oh, comme je voudrais que vraiment le monde puisse dire, je suis le Dieu d'un tel. Puisse se recommander, puisse dire, ben oui, vous savez, moi, je connais pas grand chose, je n'ai pas même lu la Bible, mais quand même j'y crois en Dieu, parce que je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui vivent cela. Et qui ont éprouvé Dieu dans leur vie. Et je me dis, c'est la première flèche qui entre, parce que nous, on veut donner des traités, tout ce qu'on veut. Bien sûr, je lui ai donné un calendrier. Mais mon erreur l'année passée, c'est qu'il avait donné un calendrier libre. Il a préféré le calendrier à effeuiller, parce que, évidemment, le calendrier libre, c'est pas tout à fait la même chose. C'est bon pour quelqu'un qui veut garder ces choses. Mais quand on commence dans la vie chrétienne, donc peut-être qu'un feuillet, ça suffit. Alors, mes amis, Dieu nous enseigne et Dieu nous parle, oui. L'amour de Dieu doit être manifesté dans nos vies. Et ce que les gens autour de nous doivent voir, c'est que nous sommes des gens, malgré nos épreuves, et ils savent que nous passons par l'épreuve, que nous sommes des gens heureux, parce que nous connaissons l'amour de Dieu. Nous connaissons la grâce du Seigneur Jésus, nous connaissons l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit, ou la communication du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été communiqué et nous met en communion avec le Père et avec le Fils. De sorte que, vous voyez mes amis, que le vœu ultime de Paul pour les Corinthiens, c'était un vœu trinitaire. Il y a le Père, il y a le Fils d'abord, il y a le Père, parce qu'on peut intervertir l'ordre, hein, et puis il y a le Saint-Esprit. Mais c'est vraiment un vœu trinitaire. Et alors je vous invite simplement à ouvrir vos Bibles maintenant dans ce chapitre 2, parce que ce qui est absolument important dans nos retraites, c'est que vous ayez vos Bibles avec vous. Et si quelqu'un, par mégarde, avait oublié sa Bible, nous en avons là, pour la remplacer. Mais il faut venir aux études avec votre Bible, parce qu'il n'est pas question d'écouter mes pensées. Il faut que vous contrôliez ce que je vous dis. Ben, ça ne m'intéresse pas du tout. Vous alliez dire, monsieur Racine, il pense comme ceci, il pense comme ça. Mais que dit l'Écriture? Et ma seule mission, c'est de vous enseigner les Écritures. Je sais tout le mal qu'on dit de moi un peu partout dans certains milieux évangéliques, parce que je ne fais pas partie d'un groupe ou je ne fais pas partie directement d'une liste de prédicateurs. Mais que voulez-vous? Il n'était pas encore prédicateur au Québec quand Dieu m'a appelé. Alors, je ne pouvais pas être dans un groupe. Oui, je suis né dans un groupe, je suis né dans une assemblée. Mais à l'âge de 30 ans, parce que le Seigneur m'avait donné une vision après mon appel que j'ai eu en 1936, alors que j'étais très jeune. Eh bien, le Seigneur m'a appelé à le servir. L'assemblée où j'étais né a été d'accord de me recommander au service du Seigneur, mais à l'âge de 30 ans, d'après le ministère que Dieu m'avait donné, je voyais des portes s'ouvrir et j'allais apporter l'évangile dans les cantons catholiques de la Suisse. Je ne voulais pas enseigner les cheveux blancs comme je l'ai dit dans la dernière retraite. J'étais jeune, j'allais dans le monde et je rencontrais des âmes qui étaient dans le monde. Et étant de descendants suguenots, c'est-à-dire de ceux qui avaient été chassés de France parce qu'ils aimaient la Bible, eh bien, je désirais donner la Bible à des gens qui ne l'avaient pas. À ce moment-là, on interdisait encore la lecture de la Bible dans l'Église romaine. Alors, j'allais dans ces lieux-là pour leur apporter la Bible. Et je n'évitais pas les couvents, je n'évitais pas les monastères, j'allais d'abord parmi eux pour leur dire, voilà, j'ai ma valise pleine, mais je ne voudrais pas que vous preniez mes livres. Donc voilà ce que je vais faire. Écoutez, un petit jeune homme de 19-20 ans, qui parle à des théologiens, là, il me regardait avec condescendance. Et ils essayaient de m'enseigner et de me dire oh, on n'a qu'un regret, vous feriez une si belle âme dans notre église. Bon. Chacun voudrait qu'on soit dans sa boîte, n'est-ce pas? Bien, nous ne travaillons pas pour une boîte. Nous travaillons pour que votre cœur soit rempli de Jésus. Comprenez-vous? Nous ne nous intéressons pas à votre étiquette religieuse. Mais nous nous intéressons à ce que votre cœur soit plein du Seigneur. Et quand le cœur est plein du Seigneur, il y aura de l'évangélisation qui se fera. Parce que les gens vous remarqueront. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Alors, on était un peu frappés parce qu'il y a des témoins. Les sœurs disaient, bien voilà notre Saint Paul qui arrive. Je ne suis pas Saint Paul. Mais hier, elle disait ça. Et puis, justement, une chère sœur que j'aime beaucoup me disait ce soir que, justement, donc, certaines critiques pastorales de certains milieux, on dit qu'il ne fait pas partie d'une congrégation établie, etc. Donc, et puis, elle leur avait répondu, mais que fait-vous de Saint Paul? Moi, je suis appelé à aller partout où le Seigneur m'ouvre les portes pour avoir un témoignage. Et il y en a qui sont pasteurs d'une communauté. Alors, si j'étais pasteur d'une communauté, j'en ai eu la Nice. Mais je l'ai laissé à mes enfants qui ont continué mon ministère. Il y a une communauté bien établie, elle est même trop petite. Maintenant, il faut une salle plus grande. Mais, mes amis, que voulez-vous? Quand on veut servir le Seigneur, il faut accepter d'être incompris. Et puis, je me dis, pendant qu'on dit du mal de moi, on n'en dit pas des autres. Alors c'est bien. Et puis, le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Est-ce qu'il a été compris? Dès que vous avez une vision, dès que vous avez un appel, puis que vous voulez suivre cet appel, vous n'aurez pas l'approbation de tout le monde. Mais vous devez avoir une conviction qui vous permet de traverser l'épreuve et de vous confier dans le Seigneur. Voyez-vous, de ne pas avoir l'approbation de tout le monde, ça nous rend 10 fois plus dépendants, 100 fois plus dépendants de notre Seigneur. Au lieu d'avoir un comité qui souvent nous entraverait, parce que c'est vrai, hein, les comités, ils nomment un sous-comité pour étudier la question, puis rien ne se fait pour finir. Il faut que nous ayons un appel et nous répondons à un appel. Il y en a qui sont pasteurs, qui ont une communauté, c'est très bien, nous ne les jugeons pas, nous ne les critiquons pas, mais qui nous laissent aller faire la mission que le Seigneur nous a demandée. Surtout que nous ne demandons pas d'argent. Et nous ne sommes pas sur des listes pour recevoir des dons par la grâce de Dieu. Parce que nous avons un Père dans les cieux qui a toujours su y pourvoir et nous sommes dans la 68e année de notre ministère et il n'a jamais fait défaut par la grâce de Dieu. Mais il nous donne ce qui est nécessaire et cela est suffisant. Alors apprenons, comme saint Paul, à vivre dans la disette, mais aussi à être dans l'abondance s'il le veut, parce que quelquefois Dieu donne aussi une certaine abondance pour que nous puissions avoir la joie de donner aux autres. Parce que qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur dans une parole qui n'est pas dans les évangiles mais qui est dans les actes? Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et c'est formidable ça. Qu'on ait cette parole dans le chapitre 20 des actes. C'est Paul qui cite une de ces paroles qui ne se trouve pas dans l'évangile, mais qui est quand même une parole de Jésus, parce qu'il confirme ce que disait l'apôtre Jean. Vous vous souvenez qu'il disait que si on avait mis toutes les paroles de Jésus par écrit, eh bien, évidemment, il parlait par hyperbole, le monde entier serait trop petit pour contenir toutes les paroles du Seigneur, et aussi tous les actes qu'il a accomplis. Il y a que quelques miracles qui nous sont donnés, mais dans ces 3 années de ministère, le Seigneur a eu beaucoup de miracles. Alors, je vous ai donné le temps d'arriver au chapitre 13, hein. Vous avez votre chapitre 13 des Corinthiens devant vous, et je vous ferai remarquer qu'avant le dernier verset, qui contient le vœu, le souhait profond de mon cœur, nous trouvons l'apôtre Paul donnant 5 exhortations. Et ces 5 exhortations m'ont paru être ce qui pouvait, je ne vais pas dire faire de cette retraite un succès, je n'aime pas tellement le mot succès, hein. C'est pas un succès qu'on désire. Je voudrais que cette retraite soit une bénédiction pour vous tous. Et vous êtes tous compris dans cette bénédiction. Mais il y a 5 exhortations dans ce chapitre 13. Et nous allons lire ces exhortations. Verset 11e. Vous savez, il y a des versets qui sont très denses. Hein. « Au reste, frères, soyez dans la joie. » Ou, selon une autre version, parce que, mais ça veut toujours dire la même chose, qu'est-ce que vous avez, vous, dans vos versions ?« Réjouissez-vous. » Ou « Soyez dans la joie. » Alors, ce que je voudrais, dès cette première soirée, c'est que vous soyez dans la joie, que vous vous réjouissiez. Première exhortation, réjouissez-vous. Voyez-vous, la joie chrétienne offre une barrière à tout ce pourquoi Satan cherche à mécontenter nos âmes. Le diable cherche à mécontenter nos âmes. Mais si nous restons dans la joie, qu'est-ce qui se passe? Il y a une barrière. Personne ne doit vous ôter votre joie. Il n'y en a qu'un qui voudrait vous enlever votre joie, vous rendre malheureux, c'est qui? C'est Satan. Et vous pouvez être sûr que c'est un menteur. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui l'a dit. Hein? Jésus a dit que Satan était un menteur et un meurtrier. Il voudrait vous faire mal. Eh bien, nous voulons croire ce que saint Paul a dit. Au reste, frères, réjouissez-vous. Oui. Alors nous restons dans la joie. Personne ne peut nous l'enlever. Puis, secondement, qu'est-ce qu'il dit? Après le réjouissez-vous, perfectionnez-vous. Alors, cela sous-entend qu'aucun de nous n'est encore parvenu à la perfection. Et à la fin de sa course, Paul lui-même reconnaissait, en écrivant aux Philippiens, qu'il n'avait pas encore obtenu le prix, et qu'il n'était pas parvenu à la perfection. Paul lui-même, à la fin de sa carrière en prison, disait qu'il n'était pas encore parvenu à la perfection, mais qu'il oubliait les choses qui étaient derrière, et qu'il tendait avec effort vers celles qui étaient devant. Eh bien, nous voulons oublier le passé, les déceptions que vous avez pu avoir, et nous voulons nous laisser saisir par le réjouissez-vous et puis par le perfectionnez-vous. Si vous êtes ici, c'est que vous en avez besoin, et moi aussi, avec vous, parce que je suis assis avec vous sur ces chaises pour écouter la parole du Seigneur. Puis, il y a une troisième exhortation qui est aussi valable. Consolez-vous. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans une épreuve qui l'afflige, et nous avons besoin de nous consoler les uns les autres. Eh bien, consolez-vous, c'était le désir de Paul. Et nous verrons qu'il y a dans la louange une véritable consolation. Regardez Job, quand il a eu tout perdu, il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Il n'a pas vu un Dieu courroucé contre lui. Il ne comprenait pas. Mais il a loué le Seigneur. Il y a une puissance de consolation dans la louange. Je ne comprends pas, mais je sais, Seigneur, que tu m'aimes, et c'est cela qui me console. Et si je dois passer par des épreuves, c'est pour que je sois capable de consoler ceux qui sont dans les mêmes épreuves par la consolation dont j'ai été moi-même consolé par Dieu. C'est vrai? N'est-ce pas? C'est l'Écriture qui dit au début de cet épître. Alors donc, vous voyez, la troisième exhortation, c'est consolez-vous. Puis, la quatrième, il est dit, ayez un même sentiment. Ah, nous venons de milieux différents. Nous avons peut-être des habitudes différentes. Mais enfin, nous ne sommes pas sur la planète des singes pour faire exactement ce que l'autre fait, n'est-ce pas? On est sur la terre et chacun a sa personnalité, son individualité, et nous avons aussi tout un héritage de traditions. Eh bien, oublions un petit peu toutes ces traditions et mettons-nous à l'étude de l'Écriture et puis apprenons à avoir un même sentiment. Un même sentiment. Et puis, si sur un point ou sur un autre, nous n'avions pas le même sentiment, qu'est-ce qu'ils nous vont faire? Bon, moi, je pars ici. Je claque la porte. Non. dans les choses auxquelles nous sommes parvenus, et nous sommes parvenus à bien des choses où nous sommes d'accord, marchons dans le même sentier. Et si vous avez un autre sentiment, Dieu vous le révélera. On n'est pas encore parvenu à tout comprendre. Alors, ouvrons-nous, ne nous fermons pas, soyons des hommes et des femmes ouverts à ce que Dieu veut nous apprendre. Car la pensée de Dieu, voyez-vous, je le répète souvent, c'est la vérité à l'égard de toute chose. Si vous voulez connaître vraiment la vérité sur un point, cherchez la pensée de Dieu. Et cette pensée nous a été révélée dans la parole. Que ce soit l'Ancien Testament que Jésus a revêtu de son autorité, ou que ce soit le Nouveau Testament dont les auteurs ont été choisis la plupart par Jésus lui-même. De sorte que nous croyons que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Enfin, il y a une cinquième exhortation de l'apôtre Paul, qui nous demande de vivre en paix. Vivez en paix. Alors, si nous avons la paix avec Dieu, nous vivrons aussi dans ces journées en paix avec nos frères. Il n'est pas question de sympathie ou d'antipathie ou de se regrouper, de faire un petit noyau parce que nous sommes du même coin, mais au contraire, nous voulons apprendre à nous connaître les uns les autres. Et n'attendez pas que l'autre fasse le premier pas, faites le premier pas vers l'autre. J'ai souvent cité cette parole, hélas, je ne peux pas vous dire de qui elle vient, parce qu'il y en a qui seraient peut-être heurtés, mais pourtant c'est une parole qui a influencé ma vie. Il disait que pour s'aimer, il fallait se connaître, et que pour se connaître, il fallait aller vers l'autre. Et qui est-ce qui a dit ça? C'est un cardinal. Donc un cardinal peut dire aussi une vérité. C'est le cardinal Mercier, de Belgique. Mais il y a bien longtemps, il est mort. Eh bien, c'est vrai cela. Pour s'aimer, il faut se connaître. Et pour se connaître, il faut aller vers l'autre. Ça m'est toujours resté. Alors, nous voulons vivre en paix. Vous aurez l'occasion de vous rencontrer. La sœur m'a dit avec beaucoup de joie, vous savez, d'habitude, on a toutes les petites tables séparées. Mais elle a dit, pour les sœurs, pour nos fêtes de Noël, on les a toutes mises ensemble. Alors, vous serez tous ensemble. J'ai trouvé que c'était très prophétique. Comme ça, vous serez tous ensemble, hein, dans les grandes tables, à la table d'Abraham. Alors, nous serons tous ensemble. Il n'y aura pas le petit aparté. C'est peut-être bien sympathique, le petit aparté, mais puisque elle me disait ça, je me suis dit, elle le dit de la part du Seigneur. Alors nous prenons du Seigneur aussi. Nous serons tous ensemble à table. Il n'y a pas besoin de s'asseoir toujours à la même place. Hein. On peut se déplacer. Il n'y a pas de numéro. Alors, si nous cherchons à réaliser ces cinq choses, individuellement et collectivement, se réjouir. Se perfectionner, être consolé, nous encourager, avoir un même sentiment et vivre en paix, eh bien, cette fin de semaine de la fin d'année ne nous apportera pas seulement un enseignement biblique sur la louange, mais quelqu'un nous donnera une louange à la gloire. Parce que ça servirait à quoi d'avoir reçu un enseignement biblique sur la louange? Nous voudrions être des hommes et des femmes qui vivent à la louange de la gloire de sa grâce, comme il l'est dit dans l'Épître aux Éphésiens. Nous voulons devenir une louange de Dieu. Et ce sera ça le grand moyen d'évangéliser, qui coûte pas cher, qui ne demande pas tout le temps de l'argent, qui ne fait pas toujours appel à la finance. Mais si nous étions une louange à la gloire de Dieu, et que les gens se rendent compte que les chrétiens ne sont pas comme les autres, qui ne se plaignent pas toujours de leurs bobos, de leurs de leur misère, de leur situation, mais que dans leur situation, ils savent à qui s'adresser. Où aller ? Bien sûr que nous avons des temps difficiles à traverser. Est-ce que c'était dit dans la Bible ? Est-ce que nous nous y sommes préparés ? À toutes ces restrictions ? Est-ce que nous avons appris à vivre plus simplement ? Ou bien alors est-ce que nous nous lamentons parce que nous ne pouvons plus faire comme avant ? Et si on était mis en prison pour notre foi, est-ce qu'on pourrait faire comme avant ? Dites-moi un peu. On est encore bien privilégiés, nous avons encore la liberté. Alors oui, nous sommes dans des temps difficiles. Il y a des questions d'emploi qui se posent. Il y a des fins de mois qui sont aussi quelquefois bien douloureuses. Mais au fond, pourquoi est-ce qu'on ne va pas vers notre Père des cieux qui dit « Je nourris les oiseaux du ciel, je revais les lys des champs, et puis vous, dans cette période de Noël, vous êtes en train de vous demander quel dinde vous allez acheter. » On est vraiment dindons. Nous avons un Père. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Entre dans ta chambre, ferme la porte sur toi, et puis demande à ton père ce dont tu as besoin. Et le père qui voit dans le secret vous exaucera. Et voyez-vous, si on était dans une situation encore plus difficile, on verrait davantage d'exaucement. Parce que on mettrait Dieu à l'épreuve. Mais maintenant, on ne met pas Dieu à l'épreuve, on a le frigidaire plein encore, ou à moitié plein. N'est-ce pas? Alors, bon, on pense tout de suite au magasin pour remplir le frigidaire. Mais si vraiment nous étions encore dans des temps très difficiles, quand on lit l'histoire de ces maisons qui ont vécu par la foi dans le passé, croyez-vous que le temps était plus facile pour eux? J'en connais en Italie, j'en ai connu en Suisse, j'en connais dans bien des pays que j'ai visités, aussi en Asie, eh bien, j'ai toujours entendu ces gens qui ne s'attendaient pas à une église pour les soutenir, mais qui s'attendaient au Dieu de l'église. Là, ils n'étaient pas toujours dans le rouge. Mais ils étaient dans la louange. Et ils étaient dans l'action de grâce. Et ils bénissaient Dieu. Et les païens qui les entouraient voyaient que leur Dieu était un Dieu qui répondait. Et que ces gens qui étaient là, eh bien, il valait plus que les oiseaux du ciel et que les lys des champs. Ils n'étaient pas nus et ils avaient le nécessaire. Ah, mes amis, j'ai des souvenirs qui m'émeuvent profondément dans ces pays comme le Vietnam, comme le Cambodge, où j'ai vécu certaines choses, aussi parmi les lépreux, la grâce de Dieu et les pleinement suffisant. Alors, nous allons nous souvenir de ces cinq exhortations, et puis, si vous me le permettez, revenons maintenant sur ce souhait trinitaire de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette grâce et qu'il nous a manifesté. La loi était venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et cette grâce, qu'est-ce qu'elle nous a apporté? Vous êtes sauvés par la grâce. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. La grâce nous a apporté le salut. C'est cette grâce maintenant qui nous enseigne. On n'est plus enseigné par la loi. Il y avait l'autre jour une dame dans notre dernière retraite qui était encore très troublée par cette question de la loi, parce que dans le milieu où elle allait, on lui enseignait la loi, la loi, la loi, de tu dois, tu dois. Puis alors, elle était malheureuse, bien sûr. Eh bien, ce n'est plus la loi qui nous enseigne. On ne rejette pas la loi. Elle est notre conducteur jusqu'à Christ. Mais une fois qu'on est à Christ, c'est ce qu'on a, la grâce. Et la grâce nous enseigne comment nous devons vivre dans le présent siècle, dans la sobriété quant à nous-mêmes, dans la justice quant aux autres, et dans la piété quant à Dieu, dans nos relations avec Dieu. C'est la grâce qui nous enseigne. C'est en elle que nous sommes fortifiés. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est elle qui est suffisante pour toute chose. Paul l'a appris. Trois fois, il a demandé à Dieu de le délivrer d'une écharde. Et quelle a été la réponse de Dieu? Ma grâce te suffit. Et il a trouvé que c'était vrai. Et il a pu dire après, la puissance du Seigneur s'accomplit dans ma faiblesse. Et il a témoigné que c'est quand il était faible qu'il était le plus fort. Et les amis qui me connaissent un peu savent très bien combien je déteste quand j'entre dans une église ou dans un lieu où je dois prêcher et que quelqu'un me dit très gentiment, « Alors, M. Racine, vous êtes en forme ?» Ça m'agace. Parce que si je me sentais en forme, ça n'irait pas. Parce que Dieu ne veut pas que je me sente en forme. C'est lui qui doit être en forme, n'est-ce pas? Et lui, il est toujours en forme. Mais moi, je sens ma faiblesse. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je vois que je ne peux pas compter sur mes propres ressources, mais que je peux m'abandonner au Seigneur en lui disant, Seigneur, il y va de ta gloire. Tu sais que moi, je n'ai qu'un corps de faiblesse, que je suis fatigué, mais toi, tu n'es pas fatigué. Alors, que ta grâce se manifeste. Et Paul a fait cette expérience. C'est quand je suis faible, qu'alors je suis fort. Alors il a accepté que la grâce était suffisante. Et j'espère que vous repartirez avec cette conviction que sa grâce vous suffit. Et c'est en elle, nous dit l'apôtre Pierre, que nous devons croître, croissez dans la grâce qui est en Jésus-Christ. J'en ai parlé sur le mont Carmel en Israël, sur ce thème, croissez dans la grâce en Jésus-Christ, pendant une semaine. Et une jeune Israélienne qui est venue me dire, c'est extraordinaire. Vous savez, j'avais demandé que le Seigneur vous inspire, et je lui avais demandé, je voudrais qu'il nous parle de croître dans la grâce. Je n'en savais rien. Que là en Israël, il y avait une âme qui demandait à Dieu que mon thème soit croître dans la grâce. Et puis voilà que j'étais conduit pendant une semaine à méditer sur ce croître dans la grâce. On croit, on grandit dans la grâce, on est sauvé par elle, mais ensuite on a à grandir en elle, croissez dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et puis, alors, que personne parmi vous ne se prive de la grâce de Dieu. C'est une exhortation que l'on trouve dans l'Épître aux Hébreux, qu'il n'y ait personne ici qui se prive de la grâce de Dieu, parce que, je le répète, la grâce, elle est pour vous tous. Et quant à l'amour de Dieu, car vous savez que Dieu vous aime, et que le Saint-Esprit nous a baptisés pour que nous soyons plus des individus isolés, mais que nous formions un seul corps, et que nous puissions réaliser que nous sommes membres les uns des autres. Pourquoi m'êtes-vous chers? Parce que vous êtes membres du corps du Christ. Pourquoi est-ce que je peux vous être cher? C'est parce que je suis membre du corps du Christ. Vous pouvez vous réunir dans telle communauté, d'autres dans telle autre communauté, mais ce qui fait notre lien, c'est pas d'être membre de la communauté, c'est d'être membre du corps de Christ. Et si vous avez compris cela, vous ne serez jamais des sectaires. Mais vous aurez un cœur aussi large que le cœur de Dieu qui aime tous les hommes, qui est le Père de tous les hommes, et qui voudrait se révéler à tous les hommes. Et vous aimerez tous les hommes, sans distinction, même ceux qui ne connaissent pas encore ce Père. Il faut qu'ils soient amenés à le connaître, et vous avez cette mission sur la terre de faire connaître ce Père qui est amour. Et nous qui sommes ses disciples, nous aussi, nous devons être des enfants de l'amour. Nous allons maintenant demander à Dieu sa bénédiction et que vraiment cette communion du Saint-Esprit soit avec nous. Et je donnerai tout de suite la parole à notre frère Josaphat et qui vous donnera quelques renseignements pratiques, ensuite à ma femme, Eva, et qui vous parlera de la librairie, et puis ensuite nous ferons les présentations très brièvement, et à 10h15, 15, nous aurons une collation, et vous pourrez encore parler ensemble, et à 11h, vous avez tout cela sur le programme, à 23h, ce sera le coucher. Puis, demain matin, un réveil musical, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, on passera dans les couloirs, Joseph a vu faire ce service encore, il en parlera lui-même, et puis on se rassemblera silencieusement dans cette salle à 7h45, je vous retrouve tous dans cette salle où vous êtes dans le silence et la prière pour recevoir un mot d'ordre pour le début de la journée. À 8h, ce sera le petit déjeuner dans la cafétéria. À 9h, nous revenons tous ici, dans la salle, pour la désignation des ateliers. Et en Dieu notre Père, nous te remercions d'avoir pu commencer cette retraite en recevant dans nos cœurs ces paroles merveilleuses que Paul exprimait aux Corinthiens, leur souhaitant la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit. Et nous voulons être de ceux qui, comme les Corinthiens, acceptent vraiment ces choses merveilleuses. Et nous voudrions aussi, comme nous l'avons lu, mettre en pratique ces 5 exhortations pour commencer ce thème sur la louange, être dans la joie, une joie que tu nous dis parfaite, avoir vraiment le besoin de nous perfectionner, de sentir que nous ne sommes pas encore parvenus à la perfection, mais que nous désirons devenir parfait comme notre Père Céleste est parfait, puisque c'était la prière du Seigneur. Nous voulons te demander que nos relations soient des relations de consolation, que de nous voir les uns les autres, nous consolions les uns les autres, que nous ayons un visage de consolation pour notre frère, pour notre sœur. Oui, nous te le demandons de tout notre cœur, que ces choses nous caractérise et qu'ainsi nous ayons le même sentiment, nous puissions vivre en paix en étant assurés que le Dieu d'amour et de paix sera avec nous. Que nous faut-il de plus? Louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. En ce samedi matin, 12 décembre 1992, j'aime vraiment à vous saluer tous cordialement dans le Seigneur Jésus. Le texte de ce jour, je l'ai trouvé dans le chapitre 43 du prophète Ésaïe. Et il est noté donc sur le tableau, le peuple que je me suis formé publiera ma louange. Une autre version dit, j'ai formé ce peuple pour moi-même ils raconteront mes louanges. Nous sommes donc en plein dans le sujet de notre retraite de ces premiers moments. Hier soir, je le dis pour ceux qui n'étaient pas arrivés, notre souhait de bienvenue était vraiment un souhait trinitaire que nous avons pris dans la deuxième épître aux Corinthiens, la fin de cette épître, chapitre 13, verset 13, où nous voyons Paul souhaiter la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit, qu'il désirait voir avec tous les Corinthiens, pas seulement avec quelques-uns, mais son souhait était pour tous, sans exception, pas pour une élite seulement, mais pour le plus humble, pour le plus jeune, comme aussi le plus âgé. Et pour que cela se réalise, nous vous avons rappelé dans notre introduction 5 exhortations que Paul donne aux Corinthiens au verset 11e de ce chapitre 13. Il désire qu'ils soient toujours joyeux, soyez dans la joie, qu'ils se perfectionnent, qu'ils se consolent les uns les autres, qu'ils aient un même sentiment, et enfin qu'ils vivent en paix. Et la conséquence de cette obéissance, le résultat, c'est que le Dieu d'amour et de paix serait avec tous. Et c'est vraiment le vœu que nous formulions hier soir. Et je vous rappelle que ce Dieu trinitaire qui nous a créés à son image, esprit, âme et corps, pour que notre être tout entier soit sanctifié, ressemble à notre Créateur, eh bien, ce qu'il voudrait, c'est que la grâce de notre Seigneur remplisse notre âme, c'est que l'amour de son Père inonde vraiment notre esprit, et que le Saint-Esprit lui-même possède notre corps, le siège de tous nos sens, afin que nous soyons des hommes et des femmes dans ce monde, contrôlés par le Dieu trinitaire. Nous sommes aussi trinitaires, et bien que le Dieu tout entier habite dans l'homme tout entier. Et c'est cela que nous devons croire. Dès ce matin, nous avons eu souvent l'occasion de souligner cette vérité, et c'est Jésus lui-même qui le promettait, que ceux qui l'aiment, ils obéissent à ses commandements, et qu'alors le Père lui-même et le Fils viendraient habiter en nous par le Saint-Esprit, notre grand consolateur. C'est quelque chose de merveilleux, et si vous avez pu vous endormir hier soir en vous disant « La grâce du Seigneur est avec moi, cette grâce qui m'a sauvé, cette grâce qui m'instruit dans la vie quotidienne, puisque nous ne sommes plus sous la loi, cette grâce dans laquelle je trouve la force, heure après heure, moment après moment, cette grâce merveilleuse qui est parfaitement suffisante au sein de toute notre faiblesse, cette grâce qui est l'élément qui nous fait croître, grandir chaque jour, eh bien, cette grâce, non, je ne vais pas la mépriser, je vais me laisser envahir dans cette retraite par la grâce de notre Seigneur. Et puis, je vais me laisser inonder par l'amour du Père, cet amour dont il aimait son Fils unique. Et je veux croire dès cet instant que je suis aimé moi-même comme Jésus lui-même était aimé. Ça change complètement une vie. Si vous pouvez le croire, et le Seigneur ne nous ment pas, il ne mentait pas à son Père quand il lui disait « Père, tu les as aimés comme tu m'as aimé ». Quand je prends conscience de cet amour, ne regardant plus à ce que je suis, mais écoutant ce qu'il me dit, et voyez-vous, dans ces journées, vous allez écouter ce que Dieu vous dit, non pas ce que vous ressentez ou ce que moi je peux vous dire, mais vous allez croire ce que Dieu vous dit. Si lui-même vous dit qu'il ne voit plus de péché en vous, vous devez le croire. Si moi je vous dis qu'il n'y a pas de péché en vous, je suis un menteur. Mais si Dieu vous dit qu'il ne voit plus de péché en vous, vous devez le croire. C'est cela, votre position, c'est comme cela qu'il vous considère. Et pour quelle raison? Parce que son Fils a fait une œuvre telle que Dieu ne voit plus vos péchés. Il est mort pour vos péchés. Parce que nous étions des pécheurs et que nous sommes des pécheurs. Mais c'est un récit parfait que Dieu maintenant ne nous voit plus comme pécheurs. Il nous voit dans les perfections de son Fils. Alors, fini cette culpabilité qui nous ronge. Et alors, dans l'action de grâce, nous arrivons vraiment à l'adoration et à la louange. Eh bien, c'est le vœu que je forme dans cette journée, que nous puissions être vraiment de ceux qui, même dans un temps difficile, dans des circonstances qui sont souvent apparemment inextricables, nous puissions être dans la louange, croire que le Seigneur ne va pas nous abandonner, mais qu'il nous forme justement lui-même pour le temps dans lequel nous nous trouvons. C'est un temps difficile. Cela a été annoncé dans la parole, mais dans un temps difficile, les enfants de Dieu ne sont pas sans ressources. Ils viennent vers leur Père Céleste qui s'occupe des oiseaux du ciel et des lys des champs, et ils lui font éperdument confiance. Mais nous devons apprendre ce que Paul nous dit avoir appris lui-même, c'est un apprentissage et c'est une formation qui se fait à la meilleure des écoles. Et j'espère que vous y êtes. En tout cas, moi j'y suis toujours. C'est l'école de Jésus. C'est là qu'on fait vraiment nos vraies études. À l'école de Jésus, nous sommes des bienheureux parce que même si nous redoublons, eh bien, il ne nous met pas de côté. Il nous garde encore. Et puis, on apprend à nouveau la leçon. C'est quelque chose de merveilleux de pouvoir être à l'école de Jésus. C'est la plus ancienne de toutes les écoles. Et je vous convie à continuer d'être dans cette école et de tout apprendre du Christ et du Christ seul. On nous a appris tant de choses. Et hier, dans le métro, je voyais une annonce avec un doigt qui montrait un ordinateur. Et on disait, toute la culture peut vous être donnée par le bout du doigt. Eh bien oui, je me disais, quel menteur. Toute cette culture, elle ne nous a pas été donnée par le bout du doigt. Si on met notre confiance dans les ordinateurs, quand les ordinateurs se tairont parce que nous allons au-devant de temps difficiles, vous n'aurez plus de culture. Tandis que si vous avez appris la culture à l'école de Jésus, alors les ordinateurs peuvent ne plus fonctionner, vous saurez encore calculer, vous saurez encore écrire, parce que tout ce qu'on nous a enseigné autrefois, eh bien, ce n'était pas si mauvais que cela. et puis même quelquefois une correction, ça valait la peine pour notre culture. Nous étions repris toute la culture au bout du doigt, c'est un mensonge. Je n'ai rien contre le progrès, je n'ai rien contre les ordinateurs, mais je dis ce n'est pas l'ordinateur qui va me donner la culture. C'est d'apprendre jour après jour à l'école du Seigneur. Et alors, nous serons dans la louange. J'ai appris à être content dans la situation dans laquelle je me trouve, disait saint Paul. C'est un apprentissage. Et le Seigneur veut que nous soyons formés pour lui, pour ce temps-ci, pour la louange, plutôt que les récriminations, les plaintes, les contestations, cette insistance sur nos droits, alors qu'on viole constamment les droits de Dieu. Eh bien, que le Seigneur nous garde, nous prépare, nous bénisse et vous donne un heureux petit déjeuner, puisque nous avons encore cette possibilité dans notre pays de nous nourrir. Dieu notre Père, de tout notre cœur, nous te bénissons quand nous pouvons commencer une journée avec toi. Nous savons que tu ne nous abandonneras pas, que tu ne nous laisseras pas, et que à chaque instant, nous pourrions avoir sur nos lèvres, et venant du plus profond de notre cœur, un sujet de louange et d'action de grâce. Oui, nous te bénissons en Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous souhaite bon appétit.